Dag Sahel, souvenir du terroir, le charmeur de rats. À une portée de canardière de la ferme du Reynaud, occupée par les Dumolus, au fond d'une combe laide et triste, s'accroupissait, on m'en souvient encore, une masure trapue et comme écrasée sous son vieux toit de chaume moussu. Il paraissait bien, au dire des anciens du village, que cette demeure avait été une dépendance de la métairie des Dumolus, dans une terre desquelles elle était enclavée, mais ceux-ci n'avaient jamais pu prouver juridiquement leur droit à la maisonnette et aux closeaux qui l'entouraient. C'était pourtant un voisin singulièrement fâcheux qu'avait l'essentiel du Reynaud. Jacques Cretel, ou l'Igroumassien, comme on l'appelait, avait bien 80 ans à l'époque dont je parle. Ce qu'on savait de son passé se résumait comme ceci. Il avait été tambour dans les armées du grand Napoléon. Il était revenu un jour à Marneve, et dès lors, tout le temps qu'il avait vécu, il avait employé à faire le mal ou à purger les innombrables condamnations que lui avaient encouru ses multiples méfaits. Maquignon à 16 heures, braconnier arpentant la campagne et battant les fourrés par toutes les claires nuits, il faisait surtout profit d'un troisième métier, plus lucratif que les deux premiers, celui de sorcier de village. Il passait pour posséder un remède guérissant les enfants de la fièvre lente, et jetait des sorts. On assurait aussi qu'il administrait d'aucune fois de diaboliques breuvages aux filles qu'une malencontreuse grossesse mettait dans l'embarras. Mais ce qui lui avait procuré une réputation régionale, c'était le secret qu'il tenait de débarrasser greniers et granges de l'engeance des rongeurs. Aussi, dans la contrée, disait-on souvent, en parlant de Cretel, le charmeur de rats. On racontait d'étranges histoires à ce propos. On avait, des nuits, rencontré le Groumassien, chassant devant lui des légions de ces quadrupèdes voraces qu'il dirigeait sur l'une ou l'autre sens. On citait tel et tel chez qui, pour se venger, il avait ainsi conduit les funestes visiteurs. On se signait en parlant de cela, les soirs à la veillée. Quand dans les métairies apparaissait le fléau, on offrait aux sorciers de grosses rémunérations pour obtenir son intervention. Le charmeur de rats devint ainsi une puissance dans le canton. On le craignait. Je n'ai pas oublié la terreur qui nous inspirait quand, enfant, nous voyions son grand corps osseux se silhouetter au tournant de chemin, ou que, soudain, surgissait au-dessus des haies sa figure ridée avec les mèches débardées de ses cheveux blancs et ses yeux au regard dur et méchant. Sans doute, il avait conscience de la crainte mystérieuse que les imaginations populaires avaient créé autour de lui. Il exploitait cette situation du serviteur de l'esprit mauvais qu'on lui avait faite, ne négligeant rien de la représentation imposée par le rôle qu'il jouait. D'étranges bruits sortaient de son logis, de sinistres cris, des chants lugubres. Souvent, les crépuscules tristes, c'était d'impétueuses roulées de tambours qui allaient s'alanguissant en le vol silencieux, en l'horreur des nuits. On entendit redire de macabres complaintes, et les passants le rencontrèrent affublés d'un linceul, les cheveux au vent. Il y a quelques années de ceci. Il y avait bien un mois que je séjournais dans la closerie des Pierrots, en la vénérée maison où s'écoula mon enfance. Je préparais ma thèse doctorale. Les quelques heures de repos intellectuel que je m'accordais durant la journée, je les passais à flâner par bons et par veaux à travers les six enchanteurs du petit village. Une fois, je vis Cretel étendu de tout son long à l'ombre d'un des vieux chênes ragots qui borde la grande ruelle. « Ah, c'est vous !» fit-il quand il m'aperçut. « C'est-tu pas vrai que je me distinguerais point si tôt de ma couche ?»« Oh non, pour sûr, lui répondis-je. « Allez, ça va-t-il comme vous voulez, père Cretel ?» Il hocha la tête. Ses yeux s'emplirent de menaces, et son grand doigt maigre et terreux montra par-delà les prés la ferme des Dumolus. « Il veut me faire crever, murmura-t-il, mais j'ai la peau dure. » Il ricanait. Je compris immédiatement. J'avais entendu parler de la haine terrible qui depuis longtemps grondait sourdement entre les censiers du Raynaud et leurs voisins et qui parfois se manifestait en vexation réciproque. « C'est par ici qu'ils passent, ces salauds !» ajouta encore l'homme couché. Je me remis en marche lentement, me dérobant derrière les haies. Car je voyais revenir des champs Guillaume, le plus jeune des Dumolus. Un gars, bel et fort, je me mis à observer. Quand celui-ci fut prêt, Cretel l'insulta, et comme le fermier poursuivait son chemin sans répondre, le vieux lui jeta une pierre. Guillaume alors se retourna. Sa lourde canne fendit l'air, retomba sur l'épaule du gueux et la brisa. Ce fut tout. Les deux hommes s'éloignèrent. Cretel ne fut pas longtemps à se guérir. Il était de race forte et vivace. Déjà, l'automne était revenu, avec le sourire triste de son soleil jaune et ses frondaisons polychromes sous un ciel romantique. Les coteaux vers le nord s'étaient fait sombres, revêtant des tons fauves et mauves, se volassant au loin, avec des floraisons noires de corbeaux et celles multicolores des pigeons piliers des guérets ensemencés. La symphonie des chants s'assourdissait en l'air plus timide, éclatant en beuglements dolents de bestiaux attardés, que scandaient encore les rares tirliries des derniers oiselets, ou l'écho languissant de quelques conversations, ou la répercussion s'amollissant d'une détonation éparpillée au-dessus des sillons. Cretel, convalescent, encore affaibli, traînait hors des bois vers sa masure des ramées et des fascines de branches mortes craquelantes. Comme il passait près du bies du moulin, un soir à la brune, il entendit deux voix qui alternaient sous un hangar où l'on remisait des copeaux. L'une de ces voix résonnait sourde et mâle, mais avec une douceur voulue et teintée, comme pour consoler. Et le sorcier reconnut l'organe sonore de Guillaume Dumolu. L'autre, flûtée suppliante, s'éraillait parfois en des sanglots, et le vieux fut bientôt convaincu que c'était celle de la belle Delphine, la fille du meunier. Mais ce Guillaume les aurait donc toutes avec ses airs conquérants de joli garçon, avec ses yeux câlins, enjôleurs des femmes. C'était donc bien vrai ce qu'on disait dans le village de cette Delphine. Avait-elle bien 18 ans? Une gaillarde de brune, bien campée sur ses hanches, les cheveux buissonneux, se crépant, les joues duveteuses et roses comme des pêches mûres, les yeux brillants comme des escarboucles, la bouche sensuelle avec des lèvres saignantes sur la blancheur affolante des dents. Rêveuse et insouciante, elle l'avait été, certes. Puis l'amour l'avait saisie, elle, la batifoleuse, pour celui-là qu'on appelait le coq du village, et ça avait été les rendez-vous furtifs en les sentiers écartés. Hélas, un dimanche, elle avait eu une syncope à la grand-messe. Bientôt, sa taille rapidement s'était épaissie. Ses yeux s'étaient cernés, ses pauvres yeux qui s'embrumaient à présent d'inquiétude. En 2 jours, ça avait été le secret de toute la paroisse. La fille du meunier était, vous savez, et des gestes grossiers achevaient la pensée. Des regards malicieux s'échangeaient, on ricanait. Jean Créteil savait tout cela. Il écouta attentivement. « Alors, tu veux bien m'épouser ?» gémissait Delphine. « Ben oui, là, répliqua Guillaume. Il faut plus ainsi t'agoniser. Nous avons fauté, mais nous pouvons réparer. J'ai assez d'honnêteté pour éviter un scandale, et je veux que notre enfant naisse légitimement. Faut tout de même qu'il ait le cœur aussi sec que la peau, ton père, pour t'avoir battu. Mais demain matin, je le verrai et tout s'arrangera. Que le bon Dieu le veuille ainsi. » Le pas de Guillaume sonna bruyamment sur les cailloux du chemin, et la silhouette de la meunière se profila un instant sur le petit pont de bois. Le charmeur de Sarah, sortant de sa cachette ombreuse, rejoignit la jeune fille. Il tenait sa vengeance. Ce qui se passa, nul au juste ne le sut. À 7 heures, la nuit sans lune, presque brusquement, s'était étendue, fuligineuse et muette, sur le val de Burgdal. Un grand cri s'était élevé dans l'horreur noire, dire ceux du Vinave. Puis quand, tremblant, ils s'étaient mis à écouter, plus rien n'avait retenti à leurs oreilles que les appels des hiboux et les pleurs du vent dans les arbres. Quand revint le matin et que ceux et celles du Hébray passaient pour aller au champ, ils trouvèrent, près de la Sanse du Rainau, s'appuyant à la margelle de l'abreuvoir, le vieux Créteil. Son regard leur parut plus sinistre encore que d'habitude. Il ricanait et sa main leur montra à moitié, envasée dans la mare boueuse, le cadavre de la Delphine. Il n'y eut qu'un cri pour accuser la malheureuse de s'être débarrassée de la vie dans son désespoir de pauvre fille, mise à mal et abandonnée par le Guillaume. Elle avait bien besoin d'aguicher le Dumolu. Voilà où ça l'avait conduite. Elle était venue mourir là, dans la closerie de son amant. Mais le sorcier hocha la tête, et du geste il leur fit voir, sur le corps de la défunte, au cou, les marques trop visibles de la strangulation. Comme les regards s'interrogeaient, le seul cochon a préféré la faire épouser par la mort, dit-il de sa voix cinglante. Oh, oh! Un frisson passa dans la foule qui s'était grossie. Une femme ramassa une pierre et la jeta contre la maison des Dumolus, qui ouvrait leur porte attirée par le bruit. En un clin d'œil, les fenêtres volèrent en éclats. Ils n'y comprenaient rien, les fermiers. Ils s'approchèrent au milieu des huées et ils virent. Guillaume aperçut la morte, dont les yeux ouverts le regardaient, et tout près, le charmeur de rats ricanant toujours. La lumière se fit dans son esprit. Puis presque aussitôt, il vit rouge. Et comme déjà la foule, affolée et aveugle, voulait le saisir. Soudain, il bondit. Ses mains de fer serrèrent furieusement à la gorge l'infâme femme Créthel, qui s'abattit inerte. Alors, de son talon dur, il lui frappa le crâne, et la cervelle du gueux s'échappa, se mariant dans la poussière du chemin. Et tous détournèrent les yeux. La carcasse du charmeur de rats fut enfouie le lendemain au petit jour. Pas un de ceux de Marnève ne suivit le hideux convoi, et le curé ne fit point sur la tombe du réprouvé les signes qui bénissent. Mais le sorcier se venge, disent les gens simples. Il revient la nuit, canarder le gibier dans les champs, et voler le bois mort dans la forêt.